Mesdames, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
Merci d'être là. Sylvie, on vous joint. De quel côté? Vous êtes où?
Moi, je suis à Drummondville. Je suis au centre d'hébergement Frédéric-Georges Riot.
Donc, à Drummondville, Sylvie Place, psychologue, et Caroline Gadouri?
Oui, je suis également à Drummondville.
Bon, toutes deux à Drummondville. Il fait beau là-bas?
Pas très beau.
Bon, ben, ici non plus à Montréal, donc on y quitte, mesdames. Donc, souvent, ben, on travaille fort dans la vie. C'est pas nécessairement pour recevoir des prix, mais pour vous, ça a été le cas un petit peu plus tôt cet automne. Donc, vous aviez reçu ce prix Rayonnement 2015 de l'Association des conseils multidisciplinaires du Québec pour ce groupe de ressourcement aux familles et aux proches du résident ou d'une personne en perte d'autonomie. Un prix, j'imagine, assez important, hein, qui souligne bien les efforts.
En fait, la CMQ, c'est au niveau du réseau de la santé, c'est entre autres un peu le gardien de la qualité des pratiques professionnelles dans le cadre multidisciplinaire. Alors, ils ont souligné le travail du projet groupe de ressourcement, entre autres à cause de la qualité de la pratique qui était inhérente à ce projet et aussi en référence à la collaboration aux différents partenaires là, qui sont impliqués dans ce projet-là.
Mm-hmm. Ce prix-là, à mon sens, souligne les réels besoins des familles, des personnes qui sont en perte d'autonomie. En quoi consistait ce groupe de ressourcement?
Il y a plusieurs années, en fait, nous, notre chef de service nous a demandé, on était une petite équipe psychosociale, de se pencher sur les besoins d'aide à la clientèle de proches aidants. Et on a décidé de faire un programme de conférences, échanges pour les aidants naturels qu'ils aient un proche tant à domicile qu'en hébergement.
Mm-hmm.
Donc, depuis ce temps, là, on fait les conférences et on a impliqué plusieurs partenaires professionnels, des collègues de l'équipe interdisciplinaire, comme des médecins, infirmières, pharmaciens, des conférenciers de la communauté, du milieu universitaire. Je vous dirais que la semaine dernière, on a des collègues qui ont réalisé la 165e conférence du groupe et qui a tout près de 2600 présences familles là, qui ont été répertoriées depuis le début de l'activité.
Mm-hmm. C'est quoi les besoins de ces familles-là qui accompagnent un proche en perte d'autonomie?
Les besoins sont beaucoup des besoins d'accompagnement, de réassurance. Ils ont besoin d'être soutenus, d'avoir de l'information sur les problématiques qui les touchent, que ce soit l'information sur les maladies, la maladie cognitive, les services, le répit, comment se comporter aussi face à la maladie.
Oui.
Il y a une multitude de questions, en fait, que les gens nous posent là, en cours de route sur les sujets qui touchent la dynamique, la perte d'autonomie.
Ouais. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour ces personnes qui vivraient un deuil aussi, c'est-à-dire le deuil de la personne qu'on a aimée, que ce soit notre père, notre conjoint, plus jamais pareil, c'est-à-dire, bon, en perte d'autonomie suite à une maladie, donc un soutien au deuil de la vie qui ne sera plus jamais la même?
Vous voulez dire le soutien aux proches aidants
oui.
quant à ce deuil-là?
Oui.
Oui, il y a des rencontres individuelles que nous, on fait à notre service et au service de psychologie où les intervenants sociaux vont faire du support individuel. Les intervenants à domicile aussi vont apporter beaucoup de support quant à cette réalité-là. Effectivement, il y a une identité qui change chez la personne qui perd d'autonomie.
Oui.
La personne était capable de conduire sa voiture, était capable de demeurer chez elle, de prendre des décisions. Tous ces secteurs-là sont souvent touchés chez la personne qui est atteinte de la perte d'autonomie. Alors oui, ils ont besoin beaucoup d'accompagnement à ce niveau-là.
Mm-hmm. Évidemment, il y a différentes causes à la perte d'autonomie. Je me demande, est-ce que ce groupe-là accompagnait seulement des familles d'un proche vieillissant ou aussi également des personnes en perte d'autonomie, mais peut-être un peu plus jeunes?
Ça peut arriver, effectivement, parce que la perte d'autonomie va être causée par, non seulement par le grand âge, mais l'évolution de certaines maladies chroniques, les AVC, les démences, les maladies dégénératives. On peut se retrouver aussi avec des gens qui ont été victimes d'un accident et dont la récupération a été très difficile. Donc, oui, il arrive qu'on ait, malgré que notre clientèle et la clientèle âgée, il arrive qu'on ait des personnes plus jeunes là, qui bénéficient des services reliés à la perte d'autonomie.
Est-ce que l'on observe que pour une famille qui aurait un proche plus jeune, c'est plus difficile ou c'est toujours le même niveau de difficulté?
On peut penser que chez la personne âgée, il y a quand même une certaine préparation, une connaissance du processus de vieillissement qui aide la personne. C'est sûr que s'il s'agit d'un accident chez une jeune personne ou un AVC chez une jeune personne, c'est très, très bouleversant pour l'individu lui-même et sa famille. Mais on sait que c'est souvent bousculé par des événements que les proches aidants se retrouvent dans ce rôle-là. Et la préparation est souvent absente de cette certaine manière.
Et en plus, j'imagine, vient de pair avec ce manque de préparation, le choc aussi.
Oui, on retrouve en fait un processus de deuil qui se déclenche dans le cadre de la perte d'autonomie. Puis dans le processus de deuil, on va retrouver effectivement le choc et les différentes étapes là, du deuil qui vont se vivre.
On le sait, mesdames, l'un des principaux enjeux, je pense, pour les proches aidants, les familles aidantes, c'est le répit. Souvent, ce sont des gens qui vont s'épuiser à soutenir, des gens qui vont parfois tomber malades également, à cause de la fatigue, du stress aussi engendré par l'accompagnement d'un proche qui est en perte d'autonomie. C'est quoi les services pour ces gens-là, pour les aider à mieux soutenir?
Mais en fait, on a plusieurs services qui sont offerts dans la communauté. Souvent, la porte d'entrée, c'est le CLSC via le guichet d'accès gériatrique. Nous, ici à Drummondville, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais c'est comme ça dans plusieurs régions au Québec. Les différents services, il y a le centre d'action bénévole, il y a le centre Normand Léveillé, il y a la société Alzheimer, il y a différents budgets aussi qui sont disponibles pour donner une allocation pour permettre d'engager quelqu'un pour du répit gardiennage. Des fois, c'est aussi des allocations ou des services d'aide à l'entretien ménager qui sont disponibles là, pour les proches aidants, pour les soutenir justement là, en lien avec le fait qu'ils sont à la maison et qu'ils doivent soutenir là, 24 heures sur 24 là, cette perte d'autonomie-là.
Est-ce que ces services-là, par exemple, sont mentionnés à travers les conférences qui sont offertes?
Oui, effectivement, on tente d'informer les familles sur les services qui sont existants et qui sont judicieux là, dans leur réalité à eux le plus possible. D'ailleurs, on met en contact les familles avec les intervenants. On a aussi une association... l'Association des proches aidants de Drummond, qui sont un organisme communautaire qui sont souvent présents lors des soirées et qui vont informer les familles de leur activité, entre autres. Là.
On a beaucoup parlé du proche aidant, de la famille. J'aimerais ça qu'on s'intéresse un petit peu à la personne qui est en perte d'autonomie. Elle aussi, bien sûr, rencontre des difficultés. C'est quoi les impacts sur la santé globale d'un individu qui est en perte d'autonomie?
Les impacts, effectivement, sont nombreux. Ça va toucher souvent l'identité de la personne dans un premier temps. Ouais. T'sais, la personne se voit comme quelqu'un qui était capable de conduire son auto, de demeurer chez elle, de prendre des décisions. Donc, la perte d'autonomie, en plus de déclencher un processus d'adaptation et de deuil important, va induire chez cette personne-là une sorte de crise d'identité. Ouais. En plus d'une désorganisation qui se joue à travers ce processus-là, C'est les deuils de l'autonomie, de l'indépendance, hein, de l'intimité. Aussi, on n'est pas habitué, par exemple, d'avoir des gens qui viennent donner des services à domicile, recevoir un bain. Mm-hmm. Alors, on va rencontrer des personnes aidées qui ont une réticence à recevoir de l'aide. Ce qui fait que l'aidant va être confronté pour sa part à travailler la motivation de son proche à cheminer à travers ça.
Oui, ben oui, c'est une facette à laquelle, j'avoue, je n'avais pas pensé. Et peut-être aussi tout le côté de la culpabilité, de dire « je suis plus capable, il y a quelqu'un qui va venir m'aider pour le ménage, il y a quelqu'un qui va venir m'aider pour tes soins, bon, le bain par exemple ». Et puis voilà, c'est ça la nouvelle réalité. J'imagine qu'il doit y avoir quelque part une bonne communication entre l'aidé et l'aidant.
Oui, ben en fait, il faut que ça soit travaillé si elle n'est pas bonne, parce que l'aidant va être confronté à cette réticence-là, comme je vous le disais, et il va avoir un travail d'accompagnement à faire avec son proche pour le faire cheminer dans cette réalité-là, pour lui faire comprendre les besoins que lui, comme aidant, il a, parce qu'il y a un déséquilibre qui s'installe entre les responsabilités de l'aidant et les besoins de l'aidé qui grandissent, parce que c'est comme les gens nous le disent, c'est comme un engrenage. Au début, ça commence tranquillement, ça augmente, et puis la personne n'est plus capable de soutenir la demande là, qui est au rendez-vous, finalement.
C'est quoi, bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs, là, mais la meilleure approche lorsque on veut garder, bon, notre proche est en perte d'autonomie, mais on veut garder certaines autonomies, certaines activités qu'il faisait. Est-ce qu'il y a des façons de faire pour garder au minimum notre proche autonome?
Mais dans le fond, nous, on va encourager les familles à favoriser que leurs proches maintiennent leur capacité résiduelle. Dans le sens que, par exemple, il y a les centres de jour qui sont un service externe. Les gens, les personnes âgées vont venir passer une journée. Ils vont recevoir de la stimulation cognitive, de la stimulation socio-occupationnelle. Ils vont faire de la physiothérapie en groupe. Donc, ça va être des bons moyens de favoriser le maintien des capacités.
Ouais.
Et si la personne aussi a perdu des capacités physiques, souvent, elle a encore de l'autonomie psychologique. On va essayer de favoriser qu'elle maintienne cette autonomie-là, on va l'aider à faire des choix, à cheminer dans ses deuils, à prendre des décisions plus éclairées sur sa situation. Ça, c'est dans le cas où la personne a pas d'atteinte cognitive. Dans le cas où la personne a des atteintes cognitives, ben ça va être toute une autre dynamique là qui va s'instaurer. On va utiliser davantage le répit, peut-être, le gardiennage à domicile.
J'imagine qu'il y a beaucoup de cas par cas et vous l'avez dû l'observer dans le cadre du groupe de ressourcement. Chaque famille a son histoire, dépendamment de la maladie ou de la cause qui a entraîné la perte d'autonomie.
Effectivement, c'est assez varié. Pour certains, ce sont vraiment des maladies cognitives ou des maladies dégénératives. Pour d'autres, ça va être une perte d'autonomie qui est reliée au vieillissement ou à un accident. Donc, c'est assez varié.
Ouais.
Le profil de nos aidants aussi est assez varié. On a des gens au groupe, en général, entre 55 ans et 75 ans, peut-être même un peu plus. Et souvent, ce sont des femmes. À peu près la moitié ont un proche à domicile et les autres ont un proche en résidence. Donc, c'est assez varié là, comme contexte.
Je trouve qu'il est important aussi de mentionner que dans le cadre de ce groupe-là, ce qui est bien, c'est que ça permet de briser l'isolement. Que même si les situations de chacun, de ce que les aidants vivent, est différent, il y a quand même, c'est un lieu d'échange. Les aidants peuvent rencontrer d'autres aidants avec qui ils peuvent échanger et puis qu'ils se rendent compte qu'il y a des similitudes et dans ce qu'ils vivent et juste le fait de pouvoir partager ça avec d'autres personnes, bien souvent, ça leur fait un très grand bien de pouvoir en parler et de voir qu'ils sont pas seuls dans ce processus-là.
Mm-hmm. C'est quoi la suite pour le groupe de ressourcement en famille ou proches du résident ou d'une personne en perte d'autonomie? Vous continuez les conférences?
Oui, effectivement. Le prix nous a beaucoup mobilisés dans nos nouveaux défis qui s'en viennent. On continue les conférences, on continue à interpeller nos partenaires qui sont très ouverts et qui répondent très positivement là, à la continuité du projet. Donc, on est au rendez-vous, là, on espère encore pour longtemps. Et puis, on travaille avec les familles qui constituent là, un partenaire essentiel pour nous aux soins et services
certainement.
Qui s'adressent à leurs proches.
Et puis, s'il y a des familles qui nous écoutent, parce que vous savez, Canal M est diffusé partout au Québec, des familles qui nous écoutent et qui disent « Moi, j'aurais envie d'assister à ces conférences-là, de faire partie du groupe », comment elles peuvent le faire?
Bien, elles peuvent nous rejoindre peut-être au numéro de téléphone. Si je peux donner le numéro de téléphone, c'est le 819-477-0527, le poste 66300. Et ils pourront avoir toute l'information relative au groupe, qui est en fait un groupe effectivement très ouvert à de nouveaux participants.
Et juste pour m'éclairer, ce n'est que dans le coin de Drummondville ou vous couvrez d'autres régions?
Nous, on est à Drummondville, on couvre seulement notre région.
Actuellement, je vous dirais qu'avec la création des CIS et des CIS,
oui.
ça nous donne aussi beaucoup un projet comme ça qui vit depuis 20 ans et on constate qu'il est encore vraiment d'actualité, qui répond à des besoins très grands de la population. C'est sûr que ça, avec le prix et la réponse qu'on a des participants, ça nous donne vraiment le goût de poursuivre et de développer davantage à ce qu'il y ait des groupes comme ça qui voient le jour là, ailleurs dans la région Mauricie-Centre du Québec.
Sylvie Place, psychologue, et Caroline Gadoury, directrice adjointe du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Encore un grand bravo pour ce prix rayonnement remis par l'Association des conseils multidisciplinaires du Québec. Un joyeux temps des fêtes à vous. Et puis, on souligne encore là, votre grand travail, mesdames. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mme Paquette.
Au revoir.
Au revoir.